Chers frères et sœurs, l'écoute des textes de ce dimanche peut nous donner l'impression que le Seigneur nous demande de nous évader de la vie quotidienne, de nous en désintéresser. Rarement, la parole de Dieu, et tout particulièrement la deuxième lecture, ce passage de la lettre de saint Paul que nous avons entendu, peuvent nous paraître aussi éloignés de la réalité de la vie du monde, aussi déroutante pour nous. Ces textes peuvent nous surprendre, nous interroger, se demander « mais qu'est-ce que veut dire exactement saint Paul ? » N'est-ce pas irréaliste de demander à des gens mariés de vivre comme s'ils ne l'étaient pas ? De demander à ceux qui sont dans le bonheur ou dans le malheur de vivre comme s'ils ne l'étaient pas ? Et puis, dans l'Évangile, nous voyons Jésus qui demande à ses apôtres de laisser leur travail, de laisser leur famille, de laisser leur vie quotidienne pour partir sur les routes derrière lui. En écoutant ces récits, on peut se demander, mais est-ce que Jésus, est-ce que saint Paul prêche l'indifférence à la vie du monde ? Laissons-nous donc interroger par ces textes et comprenons bien qu'il ne cherche pas un détachement des choses de ce monde à la manière de certains courants ésotériques qui voudraient nous pousser à nous évader des choses de ce monde. Il s'agit bien de tout à fait autre chose dans la bouche de Jésus et sous la plume de saint Paul. La spiritualité chrétienne n'évade jamais l'homme de son engagement dans le monde. Au contraire, vous le savez, au cœur de notre foi, il y a le mystère de l'incarnation. Dieu qui se fait homme, Dieu qui vient dans notre chair, nous l'avons célébré il y a quelques jours au moment de Noël. Et ce mystère de l'incarnation nous donne la direction dans laquelle notre foi doit se développer, s'inscrire. Jésus dira dans son enseignement, « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous ne lui appartenez pas, vous ne lui êtes pas soumis. » Voilà comment l'Évangile nous appelle à nous situer. Il est évident que cette parole du Seigneur prend de plus en plus d'importance dans une société qui s'éloigne toujours plus des vertus évangéliques. Il est un principe essentiel dont on ne parle peut-être pas assez aujourd'hui et qui est d'une grande sagesse et qui est d'ailleurs la meilleure garantie contre toutes les déviances, c'est ce qu'on appelle le devoir d'État. De par notre état de vie, nous avons des devoirs. Des devoirs que notre foi ne peut en rien contrarier. Par exemple, le devoir d'un père ou d'une mère de famille est en tout premier lieu de se donner à son conjoint, à son époux, à son épouse et à ses enfants. C'est son devoir d'État. C'est un critère absolu de discernement de la vérité de notre foi. Dans mon parcours de pasteur, long de presque 35 ans maintenant, il m'est arrivé de rencontrer des personnes qui avaient perdu de vue cette sagesse. Un petit exemple qui m'a marqué dans mon histoire, c'était il y a longtemps, mais j'ai gardé en mémoire cette histoire où j'ai dû accompagner une famille dont la maman avait abandonné mari et enfant pour partir sur les routes, annoncer l'Évangile dans une sorte de délire mystique. C'est du concret. Sans tomber dans ces extrêmes, il nous faut, toutes et tous, baptisés, toujours relire ce que nous vivons au quotidien pour vérifier que notre devoir d'État est bien honoré, que les vertus cardinales inspire toujours nos pensées et nos actes dans la fidélité à l'enseignement du Seigneur. Saint Paul nous invite de façon provocante, certes, dans son écrit, à mettre de l'ordre dans nos vies. C'est finalement le but de ce qu'il écrit. Il nous oblige à reconnaître que peut-être certaines choses occupent une place si encombrante dans nos appréciations qu'en fin de compte, il ne reste parfois plus de place pour Dieu. Pourtant, Dieu, vous le savez, doit toujours être à la première place, présent partout, en tout ce que nous vivons, dans nos amours terrestres, dans notre vie de famille, dans nos activités, nos joies et nos peines, nos soucis, partout, Dieu est présent et nous invite à reconnaître cette présence pour lui donner toute sa place, pour que ce soit lui qui inspire nos paroles et nos actes à tout moment. D'une certaine façon, les textes d'aujourd'hui nous posent la question, mais qu'est-ce qui est premier dans ma vie? Qu'est-ce qui est essentiel? Rappelons-nous la question de Jésus dans l'évangile de dimanche dernier, quand il se retourne sur les apôtres et qu'il leur dit « Que cherchez-vous ? Que cherchez-vous ?» Il ne nous est pas facile de prendre de la distance avec notre vie quotidienne. Nous avons à vivre, à gagner notre vie, comme on dit, à nourrir notre famille, à assurer notre avenir et celui de nos enfants. Et tout ça, c'est bien sûr important. C'est notre devoir d'État. Notre quotidien est fait de nombreux soucis, mais aussi de plaisirs et de bonheur. Certains superficiels, d'autres plus profonds. Souvent, ce quotidien laisse peu de place pour de vrais temps de pause, pour arrêter un peu le rythme trépidant. Ces moments où nous pouvons nous retrouver face à nous-mêmes, dans le silence, face à Dieu, pour relire, pour prendre du recul et de la hauteur, pour laisser retentir dans les profondeurs de notre être, la question de Jésus, que cherches-tu? Que cherches-tu? Quelle est ta quête? Comment prendre un peu de hauteur avec ce flot du quotidien qui parfois nous submerge? L'appel de Jésus repris par saint Paul est là. Il est une bonne nouvelle, un évangile pour l'homme de tous les temps, de toute l'histoire, et donc pour nous, hommes et femmes du XXIe siècle. Sommes-nous si habitués à ce message qui nous apparaît comme un message dans lequel il n'y aurait finalement rien de vraiment nouveau? Regardons la réaction de Simon, d'André, de Jacques et de Jean dans l'Évangile. Aussitôt, dès qu'ils entendent l'appel de Jésus, ils répondent. Ils laissent leur filet et ils le suivent. Pourquoi ? Pourquoi cette réaction? Comment est-ce possible de répondre si vite? Certainement parce qu'il y avait en eux une quête, une attente profondément enracinée en eux d'un sauveur. Cet appel de Jésus, ils l'attendaient profondément et il vient rejoindre cette attente. Et c'est pour cette raison que leur réponse est si spontanée, si immédiate. Écoutons l'appel discret de Jésus qui résonne tous les jours à nos oreilles, au milieu de tant de bruits qui font résonner notre monde. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile, nous dit Jésus. Sommes-nous prêts? Prêts pour entendre l'appel de Jésus et pour le suivre? Convertissez-vous, nous dit-il. Se convertir, vous le savez, c'est changer. Changer sa façon de voir et d'apprécier les choses, sa façon de vivre, pour s'ajuster chaque jour un peu plus à la manière de voir et d'agir qui est celle de Dieu et qui se résume en un seul mot, vous le savez. Aimer. Aimer. Sommes-nous prêts à laisser Dieu nous investir, nous faire participer à son regard et à nous arracher aux filets qui nous retiennent. Je prends un exemple, un petit exemple tout simple. Dans les commentaires de l'actualité du monde ou sur les réseaux sociaux, il y a tellement de haine, de critiques stériles, de violences verbales. Qu'est-ce que je fais face à tout cela? Qu'est-ce que je pense? Comment est-ce que je réagis? Est-ce que j'ai le cœur plein d'amour? Relire, convertir, ajuster aux vertus évangéliques, cela commence par les petites choses de la vie quotidienne. Voilà le choix auquel doit faire face celui qui met sa foi en Jésus-Christ. Un choix. Cela signifie qu'il nous faut opter pour un côté ou l'autre d'une alternative. Ou bien nous regardons tout avec les yeux de Dieu, ce que Dieu veut bien greffer en nous, ou bien nous regardons avec les yeux du monde, de ceux qui n'ont pas la foi, de ceux qui vivent comme si tout devait s'arrêter avec la mort. Il ne nous est pas possible, sans renier notre foi, de nous situer sur un terrain qui serait neutre entre les deux. Non, il nous faut choisir Dieu ou l'esprit du monde. La foi n'est pas un vernis qui pourrait recouvrir une existence qui ne lui serait pas accordée, qui la contredirait même constamment. Elle exige un comportement différent, en qualité du moins, de celui des non-croyants. Un cœur rempli d'amour, vous le savez. La foi est un appel à une conversion, à une lente transformation. Les apôtres ont dit oui, très vite, de manière spontanée. Ils ont marché derrière Jésus, mais quand on lit l'Évangile, on voit bien que leur transformation, leur conversion a été longue, très longue, et qu'il a fallu aller jusqu'à la Pentecôte, le don du Saint-Esprit, et au-delà, pour qu'ils soient vraiment convertis, qu'ils soient vraiment des apôtres. Si nous avons peur de ne pas pouvoir faire face à l'appel de Jésus, il nous faut bien nous dire que notre conversion ne dépend pas de nos pauvres forces. Elle dépend seulement de notre disponibilité. C'est la puissance de Dieu qui sera à l'œuvre en nous pour nous transformer comme l'argile dans les mains du potier, nous dit la parole de Dieu. Chaque jour, chaque minute est un temps de grâce et de conversion particulier. Accueillons l'appel de l'Évangile en ce dimanche et laissons la grâce nous guider sur le chemin de la foi et du témoignage, sur le chemin de la fraternité et de l'hospitalité, comme nous le demande notre archevêque. Amen. Quelques annonces. Tout d'abord, cette semaine, c'est le chanoine Jacques Bétoulière qui a eu quelques soucis de santé, qui a été hospitalisé. Voilà, il va mieux, il est rentré chez lui et est en convalescence. Donc pour quelques jours, nous prions pour lui, pour son rétablissement. Des annonces qui sont pour l'avenir, pour le carême déjà, qui se profile. Vous le savez, donc nous allons vivre notre carême sous le double signe de la fraternité et de l'hospitalité. Dans sa lettre pastorale, notre archevêque a eu un chapitre sur chacun de ces thèmes et nous a rappelé l'engagement chrétien de la fraternité et de l'hospitalité. Vous le savez aussi, j'espère, notre projet pastoral promulgué en septembre dernier en a fait aussi l'un des piliers essentiels de notre vie paroissiale. C'est donc tout naturellement que nous allons mettre l'accent là-dessus pour le prochain carême. Et dans cette perspective très simple et très concrète, nous vous proposons de vivre pendant notre carême une démarche fraternelle et accueillante qui s'appelle les 3 par 3. C'est très simple. Nous vous proposons de vous inviter les uns les autres dans vos maisons, dans vos foyers. 3 personnes ou 3 couples ou 3 entités, un couple comptant pour une entité. 3 qui ne se sont pas choisis, qui s'invitent chacun leur tour à déjeuner ou à dîner pendant le carême comme des frères, des enfants d'un même père. On va l'organiser un peu par quartier de Montpellier, un peu par clocher. Mais pour cela, il vous faut d'abord vous inscrire. Et pour vous, les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui. Donc pour cela, vous allez recevoir par mail un lien internet qui vous permettra de vous inscrire. Sinon, vous avez sur la table au fond de la cathédrale un petit feuillet où vous inscrivez donc sur le feuillet, et c'est le secrétariat paroissial qui vous inscrira. Ou encore, vous avez au fond de la cathédrale, avec ces feuillets, un QR code que vous pouvez scanner et qui vous permettra donc de vous inscrire. L'idéal, bien sûr, c'est de s'inscrire avant le début du carême, qui cette année sera le 14 février, et dans tous les cas, au plus tard, le 3 mars. Le 3 mars, on arrêtera. Voilà, parce qu'il faut le temps d'organiser les 3 rencontres, les 3 repas. Voilà, donc c'est simple, mais ça demande quand même de s'engager un peu pour le vivre et accepter donc de se faire bousculer un peu pour aller à la rencontre des frères et des sœurs de la paroisse. Et une autre annonce, alors pour plus tard encore, pour le temps pascal, pour l'octave de Pâques, le 4 avril, nous accueillerons dans la cathédrale un spectacle qui tourne en France, qui s'appelle « Monsieur le curé fait sa crise », donc un spectacle qui a été conçu à partir d'un livre qui s'appelle « Monsieur le curé fait sa crise ». Voilà. Et donc, ce spectacle, ça sera le 4 avril, donc dans l'octave de Pâques. Les places sont en vente dès maintenant, soit par Internet, vous regardez l'affiche qui a dû être posée à l'entrée de la cathédrale, ou à l'accueil de la cathédrale, si vous n'avez pas Internet, si vous préférez acheter directement un billet. Voilà, j'espère que nous serons nombreux à passer un bon moment dans la joie de Pâques après le carême.